France Inter, franceinter.com.
Tout membre de la flotte qui provoquera un rassemblement de mutins subira la peine de mort. Code britannique de la justice maritime. Mille ans d'histoire. Le 14 mai 1809, alors qu'il faisait escale dans l'île de Pitcairn, le commandant d'une baleinière américaine vit s'approcher une pirogue avec à son bord des hommes dont l'aspect n'avait rien à voir avec celui des populations de l'océan Pacifique. Leur peau était blanche et certains avaient des cheveux blonds. C'étaient les enfants du dernier des mutins du Bounty qui s'était réfugié dans l'île 20 ans plus tôt. Il s'appelait Alexander Smith et c'est par lui qu'on apprit ce qu'étaient devenus ces marins qui en avril 1789 s'étaient révoltés contre le capitaine d'un bateau dont le destin avait bouleversé le monde entier. Le Bounty qui avait quitté l'Angleterre le 23 décembre 1787 sous les ordres du lieutenant William Bligh et avec une mission à laquelle l'amirauté britannique attachait la plus grande importance.
L'amirauté m'a donné instruction de prendre la tête d'une expédition qui aurait mission d'apporter des arbres à pain de Tahiti à la Jamaïque.
Mais pourquoi des arbres à pain à la Jamaïque ?
Pourquoi ? C'est de la pitance pas chère pour les esclaves des plantations, car les bananes deviennent hors de prix de nos jours.
Rien de très glorieux, William.
Mais c'est que je n'ai pas vos relations, mon cher Fletcher. Je veux me faire un nom avant d'être trop vieux.
Mais qu'est-ce qu'il leur faut à ces plantes miracles ?
De la lumière, de la chaleur et un peu d'eau. Je les prendrai dans ma cabine, s'il le faut.
De petits porcs dans une porcherie, voilà ce que nous serons.
Non et non, pas du tout. Ce vaisseau est propre, monsieur Fryer.
Je voulais dire que le Bounty est trop petit. Il nous faudrait une frégate et non un bout de champ.
Une frégate d'une part, il faudrait aussi que je sois promu capitaine de frégate.
William, un toast.
Oui.
À notre tour du globe.
Éric Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un livre qui vient d'être publié chez l'Harmattan, vous rappelez l'histoire de cette mutinerie qui a bouleversé l'Europe l'année même de la Révolution française, d'ailleurs en 1789, la mutinerie du Bounty, un bateau dont vous avez vous-même suivi la trace, d'ailleurs dans le Pacifique, 200 ans après, vous êtes allé jusqu'à l'île de Pitcairn. C'est ce que vous rappelez dans un livre intitulé « La cuisine des révoltés du Bounty ». Alors, ce livre contient des recettes, mais ce n'est pas un livre de cuisine, Éric Deschamps.
Non, ce n'est pas un livre de cuisine. Je mets les recettes à titre indicatif pour montrer comment on vivait sur les bateaux à cette époque-là et les difficultés de transporter de quoi nourrir un équipage sur de longues distances et surtout de le maintenir en bon état et en bonne santé parce que ça s'abîmait très vite et le scorbut était la grande, ce qu'on appelait la peste marine.
La cuisine des révoltés du Bounty. On dit aussi la Bounty. Je crois que les Anglais, pour les Anglais, un bateau est au féminin.
Oui, mais les bateaux de guerre seraient au masculin. Et puis donc j'avais le choix. J'ai préféré ça. Personnellement, j'ai trouvé que ça sonnait mieux le Bounty que la Bounty. Enfin.
Alors, en tout cas, ce bateau était commandé par un officier expérimenté. Il s'appelait William Bligh. C'est un homme qui avait déjà beaucoup voyagé dans le Pacifique. C'est pour ça d'ailleurs que c'est à lui qu'on confie cette mission.
Oui, il avait fait le dernier voyage de Cook, le troisième voyage de Cook dans le Pacifique, là où Cook a été tué par des Polynésiens. Et il avait rempli tout son travail de façon extraordinaire. C'est un excellent dessinateur, très bon observateur. Il n'avait qu'un défaut, c'était un homme qui avait un caractère épouvantable et dit-on qu'il n'avait pas besoin d'amis, ce qui est assez rare. Même le pire bonhomme a besoin quand même d'un regard amical de temps en temps. Et lui, il s'en passait très bien. Et il a été tellement odieux que quand il est revenu de ce voyage de Cook, ses observations scientifiques, qui avaient beaucoup de valeur, n'ont pas été utilisés parce qu'il était vraiment trop casse-pied.
Alors, on l'envoie donc, il y aura 42 hommes sur ce bateau, dont un qui connaissait d'ailleurs déjà Bligh, qui connaissait le capitaine Bligh, et qui s'appelait, c'est donc qui va jouer un rôle considérable dans cette histoire, qui s'appelait Fletcher Christian, qui avait lui aussi parcouru le Pacifique.
Alors, non, il avait navigué avec Bligh, oui. Il avait navigué sur les Antilles. Mmh. Sur les Antilles, il avait fait deux voyages précédents, et Bligh, quand on lui a confié cette mission lointaine et assez particulière, a demandé que Christian vienne avec lui, parce qu'il avait confiance en lui, et que c'était un homme qu'il connaissait bien, voilà.
Alors, cette mission, Éric Deschamps, on l'a entendu, c'est ramener des arbres à pain. Hein, c'est-à-dire des arbres, en fait, qui se trouvent dans les pays tropicaux. À quoi ça servait ?
Ben, ça sert de nourriture et surtout, ça pousse tout seul. Alors, les Anglais ont pensé que c'était l'idéal pour nourrir les esclaves. Ils ont donc envoyé un bateau dans le Pacifique à Tahiti pour ramener ces arbres. Et malheureusement, les esclaves tout à fait contrariants ont décidé de ne pas manger les plants d'arbres à pain quand ils ont été ramenés. Donc, ça avait toute cette histoire a servi à pas grand-chose.
Alors, cette histoire qui commence par le départ, justement, du ou de la Bounty qui quitte l'Angleterre à la fin de l'année 1787 pour un voyage beaucoup plus long que le prévoyait le capitaine Bligh.
Nous appareillons deux jours avant Noël, le 23 décembre 1787.
On voit l'attention parée à larguer.
Allez, allez, on y va.
Nous doublons le Cap Horn et cap sur Tahiti. Nous y prenons l'arbre à pain. De là, nous continuons à travers les Indes, doublons le cap de Bonne-Espérance, cap sur la Jamaïque, puis retour en Angleterre. Nous ferons le tour du globe.
Pourquoi risquer de doubler le Cap Horn ?
Pourquoi ? Et parce que c'est la route la plus courte, monsieur Fryer.
C'est la plus courte si l'on n'essuie pas une de ces fameuses tempêtes du Cap Horn.
Marée au quart de point, aux écoutes et au taquet.
Sud, sud-ouest, voilà notre route. Sud, sud-ouest, à vos ordres.
Now we are ready to sail round the horn.
Way, hey, roll and go.
Me boots and me clothes, boys, are rolling upon.
Tilly, rollickin' randy dandy, oh. Heave a pull, now heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's also tied. Rollick and randy dandy.
C'est un chant de Capornier que chantait peut-être l'équipage de Bounty à son départ. C'est des chants très beaux, les chansons de marins.
Ah oui, c'est très beau. Et puis ça avait tenu une grande place sur les voiliers parce que ça rythmait l'effort et toutes les manœuvres étaient rythmées. Il y avait ce qu'on appelait à bord un shantyman qui jouait du violon, qui avait la mission à la fois d'entraîner les hommes dans les manœuvres et en même temps de les distraire le soir quand ils avaient un peu de cafard et le mal du pays.
Alors le cafard, ils en auront, hein, se distraire, ils en auront besoin, Éric Deschamps, parce que ce voyage, d'abord, il était beaucoup plus long et il a été extrêmement éprouvant. Dès le départ, le Bounty subit une tempête.
Dès le départ, au départ d'Angleterre, il y a une grosse tempête. Ils manquent de perdre un homme qui tombe du gréement. Et heureusement, il tombe sur le bateau, donc ils peuvent le récupérer. Et puis, au Cap Horn, ça ne se passe pas du tout comme ils l'espéraient.
Mais d'abord, parce que cette tempête est importante, elle nous fait aborder le problème de la nourriture. C'est-à-dire la chose la plus importante à bord d'un bateau, y compris aujourd'hui. En tout cas, une des choses les plus importantes, parce que cette nourriture est avariée. Et avant même d'arriver au Cap Horn, eh bien, on se dispute pas, mais la tension est très forte à cause du partage de la nourriture. C'est ça qui va aggraver les rapports entre Bligh et son équipage.
D'abord, sur les bateaux, on n'avait pas le droit d'allumer de feu pour la cuisson tous les jours. Il fallait que vraiment le temps soit exceptionnellement calme. Ensuite, c'était très difficile parce que, effectivement, la nourriture s'abîmait très vite et les conserves étaient. L'eau surtout devenait très vite nauséabonde. On la mélangeait avec du vinaigre, on l'aérait pour essayer de la rendre à peu près buvable. Mais évidemment, c'était bourré de microbes, bourré d'éléments pathogènes qui faisaient que les équipages étaient très vite décimés.
Et puis furieux aussi quand il y a quelque chose qui disparaissait. Et là, ça a empoisonné les rapports entre Bligh et son équipage. Par exemple, il y a, vous le rappelez, deux fromages qui disparaissent.
Alors ça, les fameux fromages, d'ailleurs. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre des tonneaux pour sortir les fromages. Il en manque deux. Bligh commence à houspiller tout le monde. a menacé tout le monde, et un des marins dit, mais souvenez-vous, capitaine, vous m'avez demandé de les amener chez vous. Ouais. Donc, apparemment, c'était Bligh qui avait envoyé deux fromages chez lui, ce qui était tout à fait courant à l'époque. Et il y avait un...
Partage des citrouilles aussi, dont vous parlez.
Oui, il y avait une rubrique aussi qui était assez connue, c'était « Eaten by rats », mangé par les rats. Donc, tout ce qui disparaissait à bord de façon un peu mystérieuse, ben, on a ajouté derrière... évidemment, les capitaines plus ou moins délicats ou indélicats, suivant, envoyaient chez eux plus ou moins de choses.
Alors, ce qui a aggravé aussi les rapports entre Blight et son équipage, c'est sa volonté de passer le Cap Horn. C'est la route la plus courte, mais pas forcément, car venant de l'Est, eh bien, le Bounty s'est retrouvé avec vent debout, c'est-à-dire avec en vent en face, les vents dominants, et venant de l'autre sens. Et là, il doit tirer des bords interminablement pour essayer de franchir le Cap Horn.
Il y a un proverbe marin qui dit que vent debout, c'est deux fois la route. Trois fois le temps, quatre fois la peine et cinq fois la rogne. Et c'est terrible, quand vous êtes sur un voilier, vous n'avancez pas, à chaque fois vous êtes obligé, j'ai vécu ça moi plusieurs fois, c'est usant. Donc au dernier moment, il fait demi-tour, mais là déjà il a perdu beaucoup de temps, donc il va vers le Cap de Bonne-Espérance.
Oui, alors il y va justement, il prend la route la plus longue, en se dirigeant, il fait demi-tour, il se dirige vers l'ouest, il va atteindre ainsi Tahiti 10 mois après le départ du Bounty d'Angleterre, attendre Tahiti, évidemment, c'est ce qui est de nature à améliorer le moral de l'équipage et ses rapports avec le capitaine Bligh.
Il n'a pas l'air si méchant que ça.
Non, c'est vrai. Pourtant, j'ai vu de ces vagues au Cap Horn, hautes comme 3 ou même 4 maisons. Et une fois, 6 hommes se sont fait emporter par une vague.
Augmentez la toile, relâchez les points d'amure.
Alors c'est vrai ce que tu m'as dit sur Tahiti.
Tu veux dire les femmes?
Oui, c'est vrai qu'elles se promènent sans rien sur elles.
Elles ne portent que des tatouages. Dans des recoins merveilleux.
Ouais,
juré que je...
Et c'était le 26 octobre 1788, l'arrivée à Tahiti, où le Bounty va rester 6 mois. Tahiti, c'est évidemment le paradis après 10 mois d'enfer, Éric Deschamps.
Oui, mais la grosse erreur de Blight, là, c'est d'être resté au mouillage pendant tout le temps où on préparait, pendant les quasiment 10 mois. Ouais. Très longtemps, et
6 mois,
le temps qu'on prépare les arbres à pain, au lieu d'occuper son équipage en naviguant sur les îles alentours, il aurait dû laisser juste les jardiniers, les spécialistes sur place, de façon à préparer les arbres à pain, les plants d'arbres à pain, et repartir avec le bateau pour revenir les chercher longtemps après. Et là, il a laissé un équipage sans occupation sur un bateau qui se dégradait. C'était terrible. Donc, il ne voulait plus repartir.
Oui, puis un équipage qui n'avait plus envie de partir, tout simplement parce que d'abord, il y avait les Tahitiennes. Et il y a certains qui vivaient en ménage avec elles, d'ailleurs.
Ah oui, ils avaient trouvé une deuxième famille. Ils avaient été adoptés par des amis. À Tahiti, on retrouve partout des fétis. Fétis, c'est un vague parent, c'est plus ou moins. Enfin, on a des fétis partout quand on vit dans le Pacifique. Et moi, j'ai emmené avec moi un gars de l'île de Pâques, un Pascouan, qui est arrivé à Tahiti. Ben, il m'a dit, je vais aller voir mes fétis. Il avait des fétis dans toutes les îles. Il savait par on dit que c'était, ils se retrouvaient.
Ils ne voulaient plus repartir, comme les marins du Bounty, qui justement voulaient si peu partir que peu de temps avant le départ prévu, c'est-à-dire 6 mois après leur arrivée, il y a eu trois désertions,
ils avaient volé une chaloupe pour partir. Et ensuite, quelqu'un, on ne sait pas qui, a essayé de couper l'ancre de le cordage d'ancre du Bounty pour l'envoyer à terre, pour l'échouer, de façon à ce que le bateau ne puisse pas repartir. Alors, est-ce que ça venait des Tahitiens qui voulaient garder leurs amis anglais? Est-ce que ça venait des Anglais qui voulaient pas repartir? On n'a jamais su exactement le fin mot de l'histoire, mais enfin, c'était assez... Ils ne voulaient pas du tout repartir. Personne ne voulait repartir.
Et les trois déserteurs, d'ailleurs, ont été rattrapés, fouettés. Hein. Là encore, la tension est très vive, toujours, entre le capitaine Bligh et ses marins.
Oui, mais il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, c'était comme ça. Quand vous partiez, un capitaine, un commandant de bateau, se retrouvait avec un équipage. Il devait, c'était quasiment normal. Il y avait le chat à neuf queues. Il y avait que des gens exceptionnels, absolument, oui, qui étaient faits d'ailleurs spécialement avec un cordage et qui étaient jetés après. On n'utilisait pas deux fois le chat à neuf queues. Il était utilisé qu'une fois. Il y avait des gens exceptionnels comme Cook qui s'était fait des amis. Avec de son équipage, mais autrement les commandants ordinaires moyens étaient absolument odieux et non ça se passait c'était dur. Hein.
Et ça c'était avant le départ à contre-cœur le 4 avril 1789. Ouais. Et puis alors là encore la tension est très forte parce qu'il se fâche même Bligh avec son propre second, hein, c'est-à-dire Fletcher Christian, enfin qui est devenu le second entre-temps.
Oui,
et il se fâche avec lui pour une histoire de noix de coco encore, la veille de la mutinerie.
Oui, ça paraît complètement ridicule, cette histoire de noix de coco. D'ailleurs, j'ai l'impression que Bligh voulait récupérer son autorité. Il a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous mener... à la cravache.
Il mais a parce dit... qu'il disait à Bligh, au fond, à Fletcher, ben c'est vous qui êtes responsable. Il se met à être en colère, il humilie Fletcher.
Voilà,
en
il l'humilie, c'est ça qui était terrible. Ouais. C'est qu'il humilie. Et ça, Fletcher, Christian, en arrive au point de, non pas de faire une mutinerie, de fomenter une mutinerie, mais de vouloir partir tout seul. Il avait préparé une petite embarcation, même pas une embarcation, une espèce de radeau. Pour, en passant près de l'île de Tofoa, partir, ce qui était de la folie. Il serait noyé, il aurait été... Et brusquement, il se retrouve un matin à la tête de cette mutinerie, mais sans l'avoir voulu. C'était pas...
Fletcher, les hommes sont prêts à tout.
En clair, tu me demandes de prendre la tête d'une mutinerie?
Si j'étais à ta place, j'en assurerais le commandement, c'est certain.
Ne tuer personne, c'est un ordre.
Sauf Bligh.
J'ai dit personne. Chaloupé à la dérive.
D'accord. Hé, hey, Christian, prends le commandement. T'es avec nous. On s'empare du vaisseau. Réveille-toi.
Monsieur Bligh, réveillez-vous.
Qu'est-ce que vous faites?
Attachez-le.
Qu'est-ce que vous faites?
Monsieur Christian, Monsieur Gaulle,
l'affaire Bligh.
Monsieur Gaulle, les commandants attaquent.
Nous avons pris le vaisseau. Nous avons pris les commandes. Nous
sommes maîtres à bord. Vous allez voir les blagues. Faites-le descendre dans la chaloupe et qu'il parte à la dérive.
Adieu, Bligh, et bon vent.
Larguez les amarres.
Et c'était le 28 avril 1789. On dit des mutinés du Bounty. En réalité, vous le rappelez, Éric Deschamps, très peu de gens ont suivi ou poussé Fletcher à se mutiner.
Ah oui, oui, il y avait cinq têtes de l'arc qui ont mené la mutinerie, qui ont... pousser Christian à se... Je crois que Christian était un faible,
Fletcher
finalement.
Christian
était un faible qui s'est laissé embarquer là-dedans, s'est retrouvé à la tête de la mutinerie. Mais des durs, il n'y en avait pas beaucoup. Et les autres, ils attendaient que ça se passe, ils se demandaient. Personne ne voulait prendre de responsabilité. Les mutins avaient des fusils, quand même, étaient armés. Ils étaient menaçants. Et quand la chaloupe a été mise à l'eau pour embarquer Bligh et ses fidèles, on a pu. La chaloupe ne pouvait prendre que 19 personnes. Donc il y a une quantité de mutins, entre guillemets, qui n'étaient pas du tout convaincus de l'utilité de la mutinerie.
Là, ils risquaient la peine de mort.
Exactement. Et qui sont restés, qui ont dû rester à bord contre leur gré.
Oui. Alors justement, des mutineries, il y en a eu pas mal dans l'histoire de la marine. Ce qui rend celle-là tout à fait extraordinaire, pourquoi parle-t-on des mutins du Bounty et pas d'autres mutineries, c'est le destin de ces hommes qui vont un peu s'éparpiller. D'abord, les hommes qui vont s'embarquer dans cette chaloupe, ou qui sont abandonnés plutôt dans cette chaloupe par Fletcher, c'est-à-dire Bligh et 18 marins. Et alors là, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire parce que, comme ils ne peuvent pas s'arrêter quelque part, ils ont essayé de le faire dans une île, mais il y a un des marins qui va être tué. Que fait Bligh? Il décide d'aller à 6000 km de là, parce qu'il fallait aller jusqu'à une colonie européenne, en l'occurrence une colonie hollandaise, c'est-à-dire jusqu'à Timor.
Timor, oui.
C'est un exploit extraordinaire que va faire Bligh sur une toute petite chaloupe avec 19 hommes.
Ah oui, il faut se dire que d'abord, c'est une chaloupe ouverte. Et il y avait 19 centimètres au-dessus de l'eau. Ils étaient tous assis les uns à côté des autres. Ils ne pouvaient pas du tout se détendre. Ils avaient très peu de nourriture. Ils étaient obligés, quand ils étaient mouillés par la pluie, comme ils avaient froid, ils trempaient leurs vêtements dans l'eau de mer parce que l'eau de mer s'évaporant moins vite que l'eau douce, ça gardait un peu plus la chaleur du corps. Et ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Et là, tous les marins doivent une grande admiration à Bligh parce que faire ça, c'est fabuleux. D'ailleurs, à un moment, j'ai pensé le refaire par expérience pour voir.
Mais oui, 6000 km en 41 jours, sans perdre un seul homme. Il y a eu des morts après l'arrivée.
Mais en fait,
il a sauvé tout le monde. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand il est rentré en Angleterre, eh bien, il était considéré un peu comme un héros. Il a été réhabilité par le tribunal qui jugeait les mutins.
Ah, de toute façon, c'était toujours le commandant qui avait raison. Il n'y a aucun problème. Là, il n'avait fait qu'appliquer la loi. Hein. C'était sans problème.
Alors, destin extraordinaire de ce capitaine abandonné dans le Pacifique et qui réussit à s'en sortir. Mmh. Et puis alors, destin aussi étonnant, tragique même, pour ceux qui étaient restés à bord du Bounty. D'abord, ils ne savent pas très bien que faire. Fletcher, vous l'avez dit, improvise un peu tout ça. Il s'arrête à Tahiti. Il y a d'ailleurs 14 hommes qui vont décider d'y rester. Mais il ne peut pas y rester, Fletcher.
Ah non, ils ne peuvent pas rester, parce que s'ils restent, ils savent que le premier bateau, comme l'amirauté ne va pas laisser impuni la disparition d'un de ces bateaux, ils voudront savoir pourquoi. Donc, il faut absolument aller se cacher dans une île, il faut trouver une île déserte. Ils tentent un premier essai à Toubouaï, mais l'île est habitée, ils se font rejeter par les Polynésiens. Et ils arrivent finalement à Pitcairn, et ils ont la chance que cette île soit mal positionnée sur la carte, par une erreur de longitude, donc ils sont tranquilles pour un moment.
Ils ont quitté Tahiti où ils étaient revenus. Il n'y a plus que 8 marins du Bounty. Il y a quand même aussi, ils ont pris leurs précautions, des Tahitiens et surtout 12 Tahitiennes, donc avec lesquels justement ils vont découvrir cette île qui avait été repérée quelques années plus tôt par un navigateur britannique, Philip Carteret.
Le 2 juillet, avons découvert une île qui semblerait inhabitée. Très pourvue en bois, mais pas une seule anse, pas de mouillage où jeter l'ancre. C'est parfait.
Les vaisseaux britanniques de la marine royale possèdent ce manuel et connaissent ces cartes.
L'île n'est pas indiquée sur ces cartes. Tout ce qui y figure, c'est sa latitude, 25 degrés de latitude sud.
Il faut que les hommes se fixent. Nous frisons la révolte.
Mais ils vont se fixer. Pitcairn sera leur île.
Hey! Fais-nous!
C'est un roi! Enfin, on y est. On l'a retrouvé. C'est notre île.
On ne repartira jamais de cette île, n'est-ce pas, monsieur? Jamais on ne reverra l'Angleterre.
Et ils ne reverront en effet jamais l'Angleterre, et l'Angleterre surtout ne sera jamais, n'entendra plus jamais parler d'eux pendant 20 ans. Alors elle condamne, pendant qu'ils arrivent à Pitcairn, elle condamne les 14 mutins qui étaient restés à Tahiti, qui ont été retrouvés par les Britanniques, par un bateau britannique qui avait été envoyé à la recherche du Bounty.
Oui, il faut souligner d'abord que la Pandora qui avait été envoyée à la recherche des mutinés fait prisonnier, alors qu'il se rendait tout à fait volontairement, fait prisonnier à Tahiti tous les marins du Bounty qui étaient restés là volontairement, que je le souligne, et les enferme dans une cage sur le pont du Pandora. Le Pandora continue sa recherche pour savoir ce qu'est devenu le Bounty, s'échoue, le bateau coule, et le capitaine Edwards, qui était pire que Blythe, alors là, refuse de libérer les gens dans leur cage et laisse couler le bateau avec les prisonniers. Heureusement, une vague brise la cage de Pandore, si on peut dire, de Pandora, et les hommes peuvent se libérer eux-mêmes avec leurs chaînes sorties. Il y en a 3 qui se noient dans ce naufrage. Et quand ils sont sur ce banc de sable, le commandant refuse même de leur donner un abri avec des toits. Ils sont en plein soleil.
Alors ils seront quand même, les survivants partiront en Angleterre. Il y en a 3 qui seront condamnés à mort et exécutés. Alors quant aux 8 marins qui étaient partis avec le Bounty jusqu'à Pitcairn, ils vont même d'ailleurs couler le bateau pour qu'on ne les retrouve pas et s'arrêter à Pitcairn. Oui. On n'entend plus du tout parler d'eux jusqu'en 1809. C'est là qu'arrive un bateau américain et qui découvre brusquement le dernier survivant qui s'appelait Alexander Smith, et qu'est-ce qu'il apprend? C'est lui qui révèle au fond ce qui s'est passé. Ils se sont entretués à Pitcairn.
Ah oui, oui, c'est pas du tout l'histoire romantique et merveilleuse dont on parle, qui a été prise par tous les écrivains, les cinéastes. D'abord, les Tahitiennes ont été... il y a eu un rapt. Ils avaient donné une fête à bord à Tahiti. Les Tahitiens et les Tahitiennes sont montés à bord et ils ont levé l'ancre sans prévenir. Donc, c'est pas du tout l'histoire d'amour qu'on voit dans les films. Je t'aime, moi aussi, on part ensemble. Pas du tout. C'est un rapt. Heureusement que les Tahitiens et les Tahitiennes étaient de bonne composition. Quand ils sont arrivés sur Pitcairn, les Anglais se sont séparés la terre entre eux sans en donner la moindre parcelle aux Tahitiens, les réduisant donc à l'état d'esclaves. Ensuite, ils ont pris des femmes pour eux, mais il n'y avait pas assez de femmes pour tout le monde. Il y avait une femme pour deux Tahitiens et une femme pour chaque Anglais. La femme d'un des Anglais se tue accidentellement en allant chercher des œufs dans les rochers.
Mais c'était la femme de Fletcher Christian, d'ailleurs, je crois, tout simplement.
Non, c'est pas la femme de Christian. Elle tombe d'un rocher, elle se tue. L'Anglais dit, il veut prendre la femme d'un Tahitien. C'est à ce moment-là que la révolte éclate. Il semblerait que Christian soit un des premiers tués. À ce moment-là, c'est tout le monde s'entretue. Les Tahitiens tuent les Anglais tuent les Tahitiens, les femmes tuent aussi. Enfin, c'est absolument épouvantable.
C'est bien qu'en 1909, le commandant du bateau américain ne retrouve plus que Alexander Smith. Alors lui, qui est entouré d'un certain nombre de Tahitiennes et qui a des enfants nés sur l'île. D'ailleurs, ce sont les descendants de ces mutinés ou de ceux mutinés des Bounty qui vivent encore aujourd'hui dans cette île. Cette île est toute petite, je crois qu'elle fait 4 km² à peu près. C'est une colonie britannique,
voilà.
Mais tous les habitants, il y en a à peine 50, sont des descendants des mutinés des Bounty.
Presque tous, oui, parce que d'autres, après, il y a des marins qui ont débarqué de baleiniers, qui ont créé de nouvelles familles, mais moi j'ai très bien connu Charles
Christian. Vous êtes
allé, je suis allé avec mon bateau, j'ai même plongé sur l'épave du Bounty, j'ai retrouvé des petits morceaux du célèbre bateau, du Bounty, c'était absolument extraordinaire, dans Bounty Bay, justement, et c'était extraordinaire, très émouvant de retrouver... à l'époque où j'y étais, les descendants n'étaient pas très enclins à parler de leur grand-père, de leurs ancêtres.
Ah bon, ils avaient encore peur d'être contre
eux? Non, mais enfin, ils trouvaient que c'était mal vu, enfin, c'était pas bien d'en parler. Et j'ai pas pu voir, parce que la Bible, il y a quelques objets qui avaient été conservés, et il prétendait avoir perdu la clé de la pièce où étaient enfermés les... Quoique maintenant, ça a beaucoup changé, parce que maintenant, ils vendent des t-shirts marqués Bounty, vous avez des cartes postales, vous avez des timbres poste, la poste fait fortune avec ça.
Merci Éric Deschamps, en tout cas, pour retrouver cette histoire. On la retrouve dans votre livre, je le répète, qui n'est pas un livre de recettes, qui est aussi l'aventure de ces mutinés de Bounty dont vous avez parlé, La cuisine des révoltés de Bounty, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan, un livre dans lequel vous retracez aussi l'histoire de cette petite rime et à travers votre propre aventure à la voile dans le Pacifique. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Bounty de Roger Donaldson avec Mel Gibson et Anthony Hopkins, disponible en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Éric Mainviel et Frédéric Potry. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec Courrier International pour son hors-série L'Atlas du terrorisme, nous parlerons des débuts du terrorisme moderne.